Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Je vous propose aujourd'hui une chronique en tandem avec une autrice autour de son premier roman. Peut-on trouver de la lumière dans les moments difficiles de nos vies ? Nous entrons aujourd'hui dans un premier roman et j'ai le grand plaisir de recevoir son autrice aujourd'hui au micro de la librairie des étudiants. Mère, c'est le titre de ce premier roman paru aux éditions Edilivre en janvier 2023. Bonjour Oriane Villereau.
Bonjour Thomas.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Aucun souci, c'est un plaisir.
Je suis très heureux de vous recevoir pour donc votre premier roman, Mère. C'est un premier roman qui est écrit tout en émotion. Nous suivons le personnage d'Ava, une jeune femme qui approche de ses 28 ans. Pour tenter d'oublier son ancien fiancé, dont elle s'est séparée récemment, Ava se rend dans un hôpital une fois par semaine pour rendre visite à des enfants malades d'un cancer pédiatrique. Il s'agit pour elle de donner de son temps, de chercher un sourire, une émotion auprès de ses enfants. Lorsqu'Ava se rend dans la chambre 222 de cet hôpital, elle rencontre un tout petit garçon nommé Sandy. Ce jeune garçon va aimer être entouré par Ava. Très rapidement, une complicité va même naître. Et cette dernière va beaucoup s'attacher au petit garçon, quitte même à transgresser les règles de ses visites. Au plus profond d'Ava, quelque chose est en train de changer. Il se peut que le petit garçon soit la source d'un désir encore plus grand pour la jeune femme. Nous la voyons évoluer au fil du roman. Elle est d'abord discrète, absorbée par son travail et encore dans le souvenir de sa précédente relation avec Julien. Il faut préciser qu'ils se sont séparés car ils n'ont pas pu avoir ensemble d'enfants. Et nous comprenons très vite que Sandy devient ce rêve d'absolu pour Ava. En prenant de plus en plus de place dans sa vie, le jeune Sandy va faire réfléchir la jeune femme. En rencontrant ce petit garçon, Ava va repenser à sa vie. A-t-on oublié qu'une rencontre peut tout faire changer dans une vie ? Et d'un coup, il y a ce petit garçon qui entre dans sa vie un peu par hasard, parce qu'en fait, elle a aussi choisi d'être auprès de lui, de lui consacrer de son temps, et en fait elle se rend compte que la vie est différente avec lui, comme une forme de renaissance.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est... Elle retrouve quelque chose qu'elle avait considéré avant, en essayant d'avoir un enfant avec Julien, mais elle le retrouve chez un enfant qui n'est pas le sien. Et oui, c'est une rencontre qui change une vie, parce qu'elle ne s'y attendait pas. Ça arrive à un moment où elle est triste, donc ça lui sort la tête de l'eau en fait.
Et elle efface complètement du coup son passé, carrément, enfin son passé sentimental en tout cas.
Oui, sentimental en tout cas, oui. Elle passe d'une jeune femme qui aimerait avoir un enfant avec un homme à une jeune femme qui se retrouve à avoir un désir de maternité non biologique avec un enfant qu'elle a rencontré complètement par hasard et en plus un enfant qui est malade. Donc c'est assez original et c'est dur, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre son point de vue à elle, c'est que c'est compliqué d'envisager une vie de maman avec un enfant qui est malade et qui n'est pas le sien.
Est-ce que ce sujet-là était aussi une réflexion de se dire, en fait, ça n'est pas encore écrit en littérature et que peut-être que ce sera à moi de l'écrire ?
Je l'ai vu nulle part. Je l'ai vu nulle part et je ne suis pas sûre que ce soit possible en réalité.
Donc est-ce que ça vous a senti peut-être légitime pour écrire ce texte ? Encore plus ou pas du tout ?
Pas du tout. Je ne me sens jamais légitime de ce que j'écris.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, je ne suis pas écrivaine ou autrice. J'ai toujours écrit plus ou moins depuis que je suis petite. Et j'écris parce que je pense et j'ai besoin d'écrire. En fait, c'est plus un besoin qu'une envie d'écrire telle histoire parce que ça ne s'est jamais écrit. J'avais jamais pensé à l'originalité de l'histoire, en fait. C'est né dans ma tête, j'ai écrit et voilà, c'est parce qu'il fallait que ça sorte.
C'était vraiment un besoin à un moment donné.
Écrire est toujours un besoin pour moi. Je ne le fais pas par pur plaisir, même si j'aime bien, mais c'est pas « oh, trop bien, je vais écrire ». Non, j'ai quelque chose dans la tête, il faut que ça sorte.
C'est une idée, une histoire peut-être, qui surgit d'un coup ?
Oui, une scène, c'est des images en fait, une scène. Puis à partir de cette scène-là, j'invente la suite, ou le début, ou la fin, ou le milieu.
Est-ce que vous faites le lien du coup entre l'écriture et la photographie ?
Oui, pour moi oui, parce que pour moi c'est des flashs. C'est pas un plan, par exemple, qui s'affiche dans ma tête, c'est des flashs de vie. Des moments de vie qui se mettent dans ma tête ou que j'ai pu apercevoir. On est inspiré tous les jours par ce qu'on voit autour de nous. Et puis, après, ça se crée.
Donc l'idée serait donc d'immortaliser quelque chose, mais par les mots plus que par l'image.
Oui, ou d'écrire par les mots ce qui se passe dans ma tête en image.
Qu'est-ce qu'il y a de plus fort pour vous entre les mots et l'image ? Parce que vous nous avez dit que vous preniez aussi des photos et que vous avez aussi ce besoin d'écrire, on le ressent.
Bah, je pense que les deux se complètent. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien que les deux se complètent. Mais je trouve que les deux ont leur importance. Il y a des images qui n'ont pas besoin de mots. Et parfois, on a vraiment besoin de mots pour comprendre tout ce qui se passe autour.
Ava est une jeune femme très sensible. Et vous le dévoilez dans le roman. Vous faites écrire Ava sur ses émotions dans des petits passages qui vont s'immiscer dans le texte général, dans le roman. On retrouve les émotions d'Ava lorsque Sandy va même se faire opérer. Les émotions sont-elles une source d'écriture importante chez vous ?
Oui, je pense que je m'intéresse vachement à ce qui bouleverse les gens et qui est capable de leur faire ressentir des fortes émotions, que ce soit le bonheur ou la tristesse. Et moi-même, je ressens les choses très, très fortement à chaque fois que je vis quelque chose. Et du coup, je pense que ça m'inspire beaucoup. Et à travers ce bouquin, je voulais décrire des gens qui sont comme moi. Parce que c'est vrai que dans la réalité, je rencontre pas tant, en fait, des gens qui ressentent à ce point-là les choses.
Est-ce que c'est peut-être une forme d'hypersensibilité ?
J'ai pas de diagnostic, parce que maintenant, ça se diagnostique.
D'accord.
Mais je pense, oui.
Et donc, on retrouve même cette sensibilité très, très forte auprès de Sandy et d'Ava, surtout quand elles le rencontrent au tout début, et au fur et à mesure, on les voit évoluer ensemble. Elle va beaucoup s'attacher, comme j'ai pu le dire. Lui va même l'appeler « Mama ».
Oui.
Comment on travaille ces émotions-là dans l'écriture ?
C'est une bonne question. Je ne me suis jamais trop posé la question de comment j'écrivais. C'est des pensées qui viennent, qui se forment dans ma tête et qui forment un tout, en fait. C'est ma façon de penser. Ce livre, c'est ma façon de penser, en fait. Je parle comme je pense et j'écris comme je pense.
Donc il n'y a pas eu forcément un plan ? Ou si, quand même, peut-être non. Une structure de construction, même pas.
J'avais la fin.
D'accord.
La fin m'est venue en premier. J'avais la fin, le début est venu après,
mm-hmm.
Et j'ai écrit tout le reste en brodant.
D'accord.
Et quand j'avais un trou, bah, je laissais plusieurs jours mon document sur le côté, et après, bah, je reprenais.
Ça a été combien de temps de travail d'écriture ?
6 mois.
6 mois ?
De septembre 2021 à février 2022.
Et il y a eu beaucoup, peut-être, de reprises ?
Non.
C'était d'un seul jet.
J'ai tout écrit d'un seul jet, j'ai jamais relu. Et à la fin, je me suis dit, je me suis débarrassée de cette histoire, parce qu'en fait, c'était un besoin de l'écrire.
Mm-hmm.
C'était viscéral, j'avais besoin de faire sortir ça. Et une fois que j'ai fini d'écrire, j'ai fermé. Et j'ai dit, c'est bon, c'est écrit, maintenant je peux passer à autre chose. Sauf que j'ai pas réussi. Et par la publication, j'ai réussi à... Je l'ai emmené plus loin. Et du coup, bah, il continue d'aller plus loin maintenant.
Il y avait ce besoin de le rendre public.
Oui, j'avais besoin qu'on le lise et qu'on me comprenne à travers mes personnages.
Une clé d'entrée, donc, pour vous comprendre.
Oui.
Dans votre roman, il y a tout un environnement culturel et même d'évasion qui baigne autour du personnage d'Ava, ce personnage central. Elle se plaît à prendre des photos et même à les accrocher sur un mur. Qu'est-ce qu'elles disent d'une vie, les photos ?
C'est les souvenirs. C'est marquer... un événement qui nous est cher en le prenant en photo, et moi-même photographe, c'est ce que je fais. Donc c'est juste marquer le moment avec une photo et le garder pour toujours avec soi, quoi.
Et saisir peut-être aussi une émotion.
Aussi, capturer l'émotion en même temps que le moment. Et à chaque fois qu'on regarde cette photo, on a le sourire aux lèvres ou alors des larmes, parce qu'on se souvient que c'était un moment important pour nous.
Vous alliez la photographie aussi avec l'écriture, on le voit, Ava... dans le roman, va écrire dans un carnet ses émotions, son ressenti, ses envies, comme une forme d'exutoire. Donc je pense que là, elle vous rejoint aussi en partie. Oui. Ces pages d'écriture, vous nous les livrez comme des respirations dans le roman. Comment est venue cette idée de créer un récit enchâssé dans votre roman ?
Parce que je voulais prendre un point de vue quand même omniscient sur le roman, par rapport à ce que j'écrivais d'habitude, qui est plutôt... du point de vue d'un personnage propre. Et j'avais quand même envie qu'Ava ait sa voix en fonction de ce qu'elle pensait. Et surtout pour que ça soit plus compréhensible. Parce que c'est vrai que le lien mère-enfant qui se crée comme ça alors qu'il n'y a rien de biologique, c'est compliqué à comprendre. Et c'est comme un journal intime. C'est son journal intime à elle, de ce qu'elle ressent par rapport à cet enfant, qui l'aide à elle à se comprendre et aussi aux lecteurs de la comprendre, elle. Selon moi.
Le titre « Don't Look Back in Anger » du groupe Oasis sur les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8. Nous sommes de retour au micro de la librairie des étudiants pour notre entretien avec Oriane Vullerot autour de son premier roman « Mère » paru en janvier 2023 aux éditions Edilivre. Oriane, vous nommez le titre que nous venons d'entendre dans votre livre. Qu'est-ce qu'il symbolise pour le personnage d'Ava ?
Je pense pas qu'il symbolise quelque chose de grand pour le personnage, mais moi j'aime écrire en musique, mmh. Et souvent c'est quand j'ai envie de mettre une musique dans une histoire, c'est celle que je suis en train d'écouter à ce moment-là de ma vie, et du coup bah, Ava c'est un petit peu moi, et comme tous les autres personnages.
Donc en plus c'est vrai que vous citez de nombreux titres dans ce texte, est-ce que du coup il faudrait plutôt refaire la question, est-ce que ces chansons-là symbolisent quelque chose pour vous ?
Oui, des passages de vie, et puis je pense que si jamais j'avais envie de me relire un jour, ce qui pour l'instant pas le cas parce que je relis pas mes livres, je pense que je me souviendrai plus des sons que j'écoutais que de l'histoire en elle-même. Disons que les chansons me rappellent dans quel état d'esprit j'étais au moment où j'écrivais. Et je pense qu'Oasis, c'était le groupe que j'écoutais le plus à ce moment-là, avec les autres chansons que j'ai citées. Après, il y a certaines chansons qui ont un sens. À la fin, je cite une chanson Coastline. Si on traduit les paroles en français, elle prend tout son sens par rapport à la scène qui se déroule.
Et ça, on n'en parle pas.
Voilà.
On fait exprès quand même de ne pas en parler, parce que sinon, plus personne ne va vouloir lire le bouquin. j'aimerais quand même qu'on entre un peu plus entre les lignes de ce premier roman. Sur la quatrième de couverture, il est écrit que vous avez été malade d'un cancer en 2020, à tout juste 19 ans. Vous avez été soigné, et par choix en pédiatrie, jusqu'à votre rémission de ce cancer. Est-ce que c'est durant cette période de votre vie que vous est venue cette idée du roman ?
L'idée de mère m'est venue à mon dernier cycle de chimio, donc à la fin de mes 6 mois de chimiothérapie. Je pense que c'est l'environnement dans lequel j'étais qui a fait que j'ai voulu écrire cette histoire. J'ai été soignée avec les enfants, j'étais souvent la plus vieille, parce que j'ai été soignée à l'hôpital Léon Bérard. Alors je ne sais pas si c'est partout pareil en France, mais à l'hôpital Léon Bérard, on nous soigne jusqu'à 25 ans, on peut être en pédiatrie si on le choisit. J'ai choisi d'être en pédiatrie parce que c'était le Covid et que je pouvais être accompagnée de ma maman. Mmh. Elle venait à toutes les chimios avec moi, donc c'est cette expérience de vie-là qui a inspiré l'histoire. Mais l'histoire m'est venue à la fin de ma chimio et j'ai commencé à l'écrire un an après parce que, pour des raisons physiques, parce que je ne pouvais plus écrire sur un clavier, j'avais plus assez de force. Et personnelle, parce que j'étais très très mal à la fin de ma chimio. J'ai pas pu écrire tout de suite, mais j'ai écrit un an après. J'ai commencé à écrire un an après.
Est-ce que l'écriture de ce roman vous a fait comprendre que, ça y est, ce que vous venez de vivre était derrière vous ?
Je l'avais espéré. J'avais espéré qu'en écrivant... c'est pour ça que je tenais à l'écrire et que c'est venu d'un coup. C'est venu en 6 mois et voilà. J'avais espéré que je puisse passer un petit peu à autre chose. Que ça fasse passer un message à mon cerveau, que j'avance. Pas trop. Par contre, la publication, oui. Le fait que d'autres gens le lisent et me disent « c'est bien, on te comprend mieux, on comprend mieux des gens qui sont malades dans notre entourage », et bah oui, j'ai commencé à passer à autre chose, et oui, là actuellement je suis vraiment en train de passer à autre chose, et ce livre, c'était un moyen de me redonner de l'espoir à moi.
Est-ce que l'écriture est forcément un exutoire pour sa santé, peut-être ?
Pour moi, oui. C'est bon pour la santé mentale d'écrire ce qu'on pense, je pense. Et puis moi, pour ma santé tout court, marquer des choses à propos de la maladie dans ce livre, ça me permet de me souvenir. Parce que j'ai peur d'oublier, j'ai oublié plein de trucs. La chimio, ça a des effets sur la mémoire qui sont lourds. Il y a plein de choses dont je ne me souviens pas. J'ai des gros trous de mémoire. Et j'aime bien m'en souvenir à travers quand même. Puis marquer le fait que j'ai vécu quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que je ne m'en souviendrai pas. Je suis tellement en train de passer à autre chose actuellement que j'ai l'impression que je n'ai pas été malade.
En fait, ça vous a carrément fait réapprendre du coup le sens ou peut-être la valeur d'une vie, de vivre plus intensément les choses aujourd'hui ?
Oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas que le cancer pour nous l'apprendre, mais oui, c'est sûr qu'on voit tout différemment. Ça, c'est obligé, on ne peut pas faire autrement.
Vos deux personnages, autant Sandy que Ava, sont teintés quand même d'optimisme, de vie. Ils ont chacun leur parcours, évidemment, et donc on comprend bien qu'ils viennent de vous complètement. Est-ce qu'ils vous habitent encore aujourd'hui, ces personnages ? Est-ce qu'ils sont encore en vous, quelque part ? Ou est-ce que petit à petit, ils s'éloignent et ça va peut-être vous laisser de la place pour créer d'autres histoires ou parler d'autres choses ?
Ils sont encore très présents, surtout Sandy, parce que j'ai l'impression que Sandy, c'est mon enfant, en fait. Mmh. C'est bizarre à dire comme ça, mais chacun de mes personnages, c'est un bout de moi, et cet enfant, ce bébé... C'est un peu mon enfant à travers ce livre. Autant j'arrive à me détacher un peu d'Ava maintenant, autant Sandy, je me vois encore beaucoup en lui et il est toujours là, j'y pense souvent. Il m'est arrivé encore cet été, je crois, l'été dernier ou même en automne, de le dessiner sans vraiment le vouloir. Je me suis mis à griffonner sur une feuille et je l'ai dessiné et après je l'ai redessiné à la tablette avec un stylet. Et j'ai eu besoin de l'avoir, je l'ai imprimé même, j'ai eu besoin de l'avoir avec moi sur ma table de nuit pendant un moment. Comme s'il me disait, bah coucou, je suis encore là. Mais oui, ça va s'éloigner, c'est comme ça que ça se passe pour tous mes livres. Mais pour l'instant, ils sont encore là et je suis contente qu'ils restent un petit peu.
En apprenant votre vécu, avant de commencer la lecture, et en tant que lecteur, je me suis de nombreuses fois interrogé pour savoir où se trouvait donc la frontière entre vos personnages et vous. Comment vous avez abordé lors de l'écriture, même si vous avez dit que c'était d'un seul jet, tout ce roman. Comment vous avez abordé la construction de ces personnages? Est-ce que vous avez quand même, là, à ce moment-là, dit, bah tiens, Sandy, je lui donne telle partie de moi, Ava, telle partie? Comment ça s'est passé?
En fait, je me suis retrouvée, c'est un peu mon moi intérieur qui s'est séparé. Je me suis retrouvée en chimio à 19 ans. J'ai passé mes 20 ans à l'hôpital. Et on m'a dit là-bas que après la chimio, il se pourrait que je pourrais pas avoir d'enfant. Il se peut que je puisse pas avoir d'enfant de ma vie. Ça peut rendre stérile. Du coup, je me suis retrouvée en fin de chimio à avoir été soignée qu'avec des enfants, à avoir vécu des moments de joie immenses avec des enfants qui sourient, qui pleurent presque pas. Et un côté très j'ai été infantilisée. Je le savais en choisissant ce parcours-là, que j'allais être infantilisée, être coucounée. Et d'un côté, j'étais cette jeune femme qui, j'ai 20 ans et je sais pas si je pourrais avoir des enfants alors que je sais que j'en veux. Ça fait des années que je sais que j'en veux, c'est comme ça. Et du coup, je me suis retrouvée à moitié enfant, à moitié adulte, mais trop adulte. Mmh. Un peu trop adulte, un peu trop enfant d'un côté. Et je pense que le fait d'avoir Sandy et Ava, ça m'a permis de... ça, c'est mon côté femme. Ça, c'est mon côté enfant. Et il y a le côté enfant qui est dû au parcours de la maladie. Je peux pas trop l'expliquer autrement. J'ai pas fait de construction particulière, c'est juste la façon dont j'ai ressenti les choses se sont séparées en plusieurs personnages. Et il y a un peu de moi dans Sandy, un peu moi dans Ava. Il y a peut-être un petit peu de moi dans Léo. Qui sait?
Le côté un peu rebelle, du coup?
Oui.
Chez Léo?
Oui, sûrement.
Qui est le petit frère d'Ava, pour le préciser. Dans votre roman, donc il est aussi question donc de l'adoption. C'est vraiment la toile de fond qui traverse tout votre roman parce que, au fur et à mesure qu'Ava va connaître Sandy, le voir grandir, ce désir va naître en elle de vouloir l'adopter. Ava va donc se confronter au rouage de l'administration de l'adoption. Est-ce que ce roman était aussi de ce côté-là une forme de didactisme pour apprendre aux gens ou montrer aux gens les étapes qu'il y a avant de pouvoir adopter un enfant?
Alors, je les ai apprises en même temps, parce que j'ai fait pas mal de recherches. C'est le seul truc qui m'a demandé un petit peu de recherche, c'est l'adoption et le voyage en Espagne, qui se passe à la fin. Parce que c'est des choses que je ne connaissais pas trop. Et du coup, c'est des choses pour lesquelles j'ai fait pas mal de recherches. Mais oui, c'est pour montrer que... C'était pas tellement pour montrer le parcours d'adoption, c'était pour montrer qu'il y avait d'autres moyens d'être maman. Il n'y a pas que... La PMA, il n'y a pas que la version biologique, la façon adoptive. Il y a plein de manières de sentir mère sans même l'être, en fait. C'est pour revenir aux émotions, c'est le sentiment d'être mère, même si on ne peut pas forcément l'être. Si Ava n'avait pas pu devenir la maman légale de Sandy, elle se serait sentie mère quand même, je pense.
Oui, puis d'ailleurs, on voit justement cette évolution de la mentalité aussi dans les carnets. Les feuillets de son carnet que vous dévoilez au long du roman.
Oui.
Qui était donc essentiel dans la construction. L'écriture du roman, vous l'abordez à la première personne du singulier, en jeu. Est-ce que c'était plus facile de l'écrire ainsi? Du fait que, comme on l'a pu le dire, les personnages ont autant de vous, qu'ils sont aussi des personnages fictifs?
J'ai souvent, dans tout ce que j'écris, j'écris toujours une partie en jeu, je pense. Mais oui, c'est une façon de parler, de me donner de la parole à moi aussi. Parce que autant j'aime pas parler de moi, autant j'aime bien faire parler mes personnages à ma place.
Donc c'est plus facile de se glisser dans un narrateur?
Oui.
Pour pouvoir exprimer ses propres émotions?
Oui. C'est ce que je fais en tout cas.
Du coup, ce texte, vous le présentez comme un roman, est-ce qu'on peut le voir aussi du coup comme une forme de récit, voire presque d'autofiction?
Ça dépend ce que vous entendez par autofiction.
C'est peut-être un peu loin l'autofiction, du fait que ce soit son propre vécu qui soit peut-être romancé.
Je sais pas si on pourrait aller jusque là, mais oui, en un sens, oui. Moi, je dis plus que c'est un roman avec des bouts de moi.
Un roman avec des bouts de soi, c'est beau.
Après, c'est la rémission, quoi. J'avais plus envie de parler de la rémission, en fait. Je me suis donné un espoir moi-même sur comment vivre. J'allais vivre ma rémission. Ça faisait qu'un an que j'étais en rémission quand je l'ai écrit. Et je le vivais très mal. J'ai très mal vécu ma première année de rémission. Et je voulais me donner de l'espoir sur la suite. Et c'est pour ça que j'ai écrit une rémission joyeuse, comme je l'ai écrit après.
Donc à travers le personnage de Sandy, oui. Vivre tous ses voyages?
les voyages, les allers-retours à l'hôpital qui te ramènent à la réalité.
Est-ce que le voyage en Espagne a donc été réalisé aussi pour votre part ?
Non, je suis jamais allée en Espagne. C'est le seul pays frontalier de la France auquel je suis jamais allée.
Mère est un texte lumineux qui donne de l'espoir. Vous l'écrivez aussi. À toutes les personnes qui entourent, là pour le coup Sandy, donc que ce soit Ava, son frère Léo et même donc ses grands-parents, car il est adopté ensuite par Ava. Est-ce une façon de montrer aussi aux gens que finalement la rémission peut être aussi des moments de bonheur ?
Oui, je pense. Je pense que aussi bien le parcours de maladie et aussi bien la rémission peut être jonché de bonheur tout le temps. Ça a été mon cas pour le parcours en chimio en tout cas. J'ai été supportée par plein de gens et j'en garde un très bon souvenir honnêtement de ma maladie. Il peut y avoir des moments plus compliqués, mais je pense que oui, la rémission ainsi que la maladie peuvent être des moments de bonheur aussi, parce qu'on réalise ce qui est important.
Quand on sort de l'hôpital à ce moment-là, est-ce qu'on redécouvre le monde ? Ou est-ce qu'on l'appréhende d'une manière différente, d'une manière nouvelle ?
On l'appréhende, pour ma part en tout cas, je l'ai beaucoup plus appréhendé que redécouvert, parce que je suis tombée malade au moment du Covid. Donc le monde était déjà assez différent comme ça. Donc ça a été compliqué de sortir de l'hôpital pour retrouver la maison. Et puis après, le monde a recommencé à vivre. Donc tout le monde a redécouvert le monde en même temps à ce moment-là. Moi, je l'ai plus appréhendé d'une différente manière. C'est que ne plus aller à l'hôpital me faisait peur. J'avais peur d'être moins surveillée, que la maladie revienne parce qu'on avait loupé un examen ou qu'on avait écarté de 2 semaines une prise de sang. Et j'ai très mal vécu mes premiers mois de rémission. Les 6 premiers mois ont été très compliqués. Je pense que j'ai tenu pendant 6 mois à être joyeuse pour tout le monde, à montrer que ça allait bien. Et de septembre, octobre à février, mars 2021, donc 2020-2021, toute la tristesse et la colère que j'ai pu enfouir est ressortie à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que j'écrive. Et je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai encore fait 6 mois après. Mais c'était pour me donner de l'espoir. Et je pense que ce livre m'a aidé à mieux vivre ma rémission. À me dire que oui, il y avait ça qui est important, ça c'est joyeux, à distinguer le bon du mauvais, qu'est-ce qui m'angoisse, qu'est-ce qui me fait du mal, qu'est-ce qui me rend heureuse et qu'est-ce qui est important à ce moment-là.
Donc avant l'écriture, on se raccroche à quoi ?
Principalement aux examens qui sont bons,
ouais.
au monde qui revit post-Covid.
Est-ce que du coup ça vous a fait sentir aussi... Un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Le fait qu'en fait, vous revenez en même temps que les autres à ressortir, à retourner au cinéma, à redécouvrir des choses qu'on avait oubliées pendant ces temps de Covid.
Alors, pas comme tout le monde, parce que je me suis vachement éloignée du monde, justement. J'ai fait un trait sur beaucoup d'amis. Toutes mes relations ont changé. C'est dans les moments les plus durs qu'on découvre nos vrais amis, évidemment. Du coup, je me suis beaucoup éloignée de pas mal de monde, aussi bien de ma famille que des amis proches ou lointains. Donc j'ai réappris à vivre, mais plus lentement que les autres. Mais oui, en effet, le fait que le Covid ait ralenti le monde à ce point-là, ça a été moins compliqué de me réintégrer, en fait. Quand je suis retournée à ma rentrée de licence 2, personne ne s'était vu pendant 6 mois. Donc c'était pareil pour moi. Ma maladie aurait pu passer inaperçue, en fait. Mmh. Je suis tombée malade au début du Covid. Je suis sortie de chimio dès qu'on est sorti de confinement. Donc, ça aurait pu passer tout seul, mais c'est vrai que c'était plus compliqué que ça. Il y a plein d'étapes et c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est bien plus que de sortir et de reparler à des gens. C'est avancer avec les petites choses. Un rendez-vous qui est bon, une nouvelle relation qui se crée ou... Retourner à l'hôpital, des fois, ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé de retourner à l'hôpital, même pour des raisons où, à des moments où il ne fallait pas, j'y allais quand même, parce que c'était ma bouée de sauvetage, un peu, l'hôpital, la première année. Me raccrocher aux examens, faire une prise de sang de plus, parce que je suis inquiète. Et ça, on nous le fait.
Donc quelque part aussi, fonder sa vie sur peut-être de l'espoir, surtout dans des moments difficiles.
Oui, c'est de l'espoir. Se raccrocher aux jolies choses. Et ce livre, c'est toutes les jolies choses auxquelles j'ai pu penser ou pu rêver pour moi, à travers Sandy.
Vous avez voulu chercher de la beauté partout?
Oui.
Est-ce que vous le faites encore aujourd'hui?
Oui.
Dans quoi, par exemple?
Tout. Il y a beaucoup de choses que je trouve jolies. Mes proches, d'ailleurs, me trouvent parfois un peu folle ou un peu bébête, je sais pas. Mais je peux me mettre à pleurer devant un arbre parce que je le trouve très joli. Ça fait partie de l'hypersensibilité, je pense, mais y a des choses qui me rendent très heureuse. Vu que je suis photographe, je prends beaucoup de choses en photo, et il y a des choses que je prends en photo je les ai sur mon ordi et je peux pas décrocher parce que je les trouve très belles. Mais il y a beaucoup de choses qui m'émeuvent.
Oui. C'est presque une forme d'émerveillement, finalement, devant le monde.
Oui, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression de vivre, depuis que je suis sortie de cette période un peu noire de rémission, tout ce qui se présente à moi, je trouve ça magnifique, en fait. Et puis important, c'est surtout important, c'est pas tellement beau, c'est... même si c'est pas un moment agréable à vivre, il faut que je le vive, parce que c'est un moment, et les moments, c'est important.
Et là, on retrouve bien, du coup, la philosophie d'un jeune petit enfant qui s'appelle Sandy.
Voilà, un petit enfant qui découvre le monde alors qu'il l'a pas encore connu... en sortant de l'hôpital.
Oui, c'est-à-dire ce que vous décrivez, qu'en fait, il ne connaît... D'ailleurs, c'était même la crainte d'Ava, c'est de se dire, on l'emmène dans un monde qu'il ne connaît pas.
Il ne connaît pas, il a connu que l'hôpital. Et c'est son choix aussi à elle de ne pas le mettre à l'école tout de suite, parce qu'elle ne le met pas à l'école. Quand il sort de chimio, il devrait rentrer en maternelle, quasiment. Et elle fait le choix de ne pas le mettre à l'école, avant le CP, je crois, dans ce que j'écris. Elle décide de l'emmener voir le monde.
Il y a donc tout un voyage en van, justement.
Voilà.
L'émerveillement par le voyage, est-ce que le voyage est aussi une source de réparation?
Oui, je pense que voir sortir de son monde à soi, voir autre chose, voir d'autres cultures, ça permet de voir d'autres formes de savourer le monde, d'autres philosophies de vie aussi. J'ai fait un Erasmus à Malte l'année dernière qui a duré 4 mois. Ils vivent pas comme nous du tout. En fait, ça fait partie de l'Europe, mais c'est un pays qui se rapproche vachement plus du monde arabe ils n'ont pas du tout le même rythme de vie. Ils ouvrent, un exemple tout bête, mais les magasins, ils ouvrent à l'heure qu'ils veulent. Voilà, s'ils veulent ouvrir à 10h et fermer à midi, c'est comme ça. Il n'y a pas d'horaire marqué sur les vitrines ou quoi. C'est cool. Et voir autrement, voir les choses autrement... rencontrer du monde, puis même juste voir d'autres paysages. Et puis, le voyage, c'est un truc dont la plupart des gens rêvent. On a tous envie de partir à un moment donné dans notre vie, je pense. On n'a pas envie de rester tous dans une maison à la campagne en France ou en ville.
Et d'ailleurs, c'est cette dimension de l'apprentissage dont vous parlez là à l'instant que va lui apprendre Ava en partant, en sillonnant, pour le coup, les routes de France et même un peu d'Espagne. Mmh. Et c'est ce qu'elle va lui apprendre, donc peut-être une ouverture d'esprit aussi sur les autres.
Oui. Je pense qu'Ava, elle souhaite, et moi, à travers Ava, elle souhaite d'ouvrir son enfant, justement de ne pas le mettre à l'école, de lui offrir une autre forme d'éducation, d'apprendre à jouer, parce que Sandy ne sait pas jouer quand il sort de l'hôpital. Il n'a jamais joué avec d'autres enfants. Donc lui faire découvrir un petit peu après les autres, de son âge, avec un petit peu de retard, ce que c'est de jouer, ce que c'est de rencontrer des enfants, ce que c'est de discuter sans avoir le même langage, la même culture. Et à travers ce bouquin, j'espère que Sandy, du coup, qui est encore en moi, est ouvert d'esprit à tout et sait communiquer avec plein de gens sans savoir parler leur langue, sans avoir à crier, à se disputer, sans qu'il y ait toutes les interférences politiques, culturelles qui peuvent... Nous mettre des barrières. J'avais envie que ce soit un enfant sans barrières, en fait. Très ouvert d'esprit, et puis bilingue, trilingue. C'est l'enfant de rêve.
Un roman lumineux qui nous fait nous ouvrir sur d'autres horizons, nous faire attention aussi aux personnes. Je crois que c'est quelques-uns des piliers qui composent ce roman. On a passer sous silence une bonne partie, parce que sinon on risque de détricoter toute la fin et de dévoiler certaines choses. Donc je vous laisserai le soin, hein, amis auditeurs et auditrices, de découvrir la suite de ce texte. Mère, c'est le titre du premier roman, objet de cette chronique du jour, de cet entretien, paru aux éditions Livre et Dix Livres en janvier 2023. Merci Oriane Vullerot d'être venue aujourd'hui.
Merci Thomas.
Je précise aussi que deux autres nouvelles sont aussi signées de votre main, qui sont aussi également disponibles aux éditions et Dix Livres. Merci infiniment d'être venue aujourd'hui. Amis auditeurs et auditrices, notre chronique du jour est terminée, mais je vous donne bien sûr rendez-vous dès mercredi prochain pour poursuivre notre programme de lecture. La capsule auditive de l'entretien du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et surtout le plus important, d'avoir de belles lectures.